France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Descartes, savant.
Les Français imaginent volontiers être cartésiens. Ils pensent que cela ne fait qu'un avec la clarté ou l'évidence. Être cartésien, pour le sens commun, c'est être bien raisonnable, bien classique. Pas fantaisiste pour deux sous, pas romantique non plus, pas fou, les deux pieds sur terre. De fait, les Français confondent Descartes avec Boileau. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément.
C'est un demi-dieu du grand siècle classique, c'est l'objet d'une vraie passion nationale et en même temps la bibliographie qui lui est consacrée est beaucoup plus internationale que francophone. Et quand il s'agit du Descartes savant, les publications le regardent souvent de surplomb, cherchant à distinguer ce qui resterait valable dans son optique, sa physique, sa médecine, etc., comme si l'histoire des sciences consistait à séparer ce qui est encore concevable de ce qui serait déjà périmé. C'est le mouvement de la création scientifique qu'il faut restituer et, à l'origine, le travail de construction du savant et du philosophe qui va faire des choses, des objets purement connaissables. N'y a-t-il pas dans cette construction une part de désir, d'attente, de prudence de l'homme? Alors nous sommes dans un lieu, la Fondation Cartier à Paris, qui tente dans une exposition sur les mathématiques de faire le lien entre l'abstraction et l'émotion. Et bien, c'est ce à quoi nous allons nous employer aussi. Avec Françoise Hildesheimer, bonsoir.
Bonsoir.
Qui est une biographe de Descartes bien connue. Vous avez remarqué d'ailleurs, Françoise Hildesheimer, que les femmes s'intéressent beaucoup à Descartes et depuis le XVIIe siècle.
Peut-être plus qu'il ne s'est lui-même intéressé aux femmes, mais enfin ça montre à tout le moins qu'il savait et leur parler en français, puisqu'il a écrit le discours de la méthode en français, pour être compris même des femmes, et aussi qu'il savait séduire, on le verra à la fin de sa vie, quelques princesses ou quelques reines.
Alors dites-moi, on va entendre une femme d'entrée de jeu. Elle s'appelle, ça ne s'invente pas, Madame Raison. Et elle réside dans le village de Touraine, où Descartes vit le jour en 1596.
Savez-vous seulement qu'il y a aujourd'hui un village qui porte votre nom ? Là est Descartes, à l'endroit où vous êtes né, et dans ce village, une rue qui s'appelle la rue Descartes, et dans cette rue, un café qui s'appelle encore le café Descartes, où on doit disputer ce soir un grand concours de belote. Et Madame Raison.
C'est votre nom ou bien c'est un pseudonyme?
C'est mon nom.
Qu'est-ce qu'on dit de Descartes ici?
Beaucoup de bien, on nous a toujours appris à l'aimer et à le respecter.
Comment vous imaginez-vous Descartes?
Un homme très intelligent, très instruit, c'était un homme très capable et un homme très intelligent qu'on aimait beaucoup partout où il passait.
Mais dites-moi, physiquement par exemple, est-ce que vous imaginez Descartes d'une certaine manière ou bien est-ce qu'il vous paraît, il me semble que la statue qu'il y a sur la place là, lui ressemble vraiment?
Elle lui ressemble vraiment et je crois même qu'il était encore mieux qu'il n'était reproduit. D'après certaines photos que j'ai vues, il était photographié. Il était l'amant d'une reine.
Vous souhaitez, n'est-ce pas, qu'il y ait bientôt à la haie Descartes une fête pour célébrer Descartes?
De tout cœur, je le souhaite et suis très fier d'être de la haie Descartes.
Alors, si ça grésille, pardon, si ça pétille, c'est que l'enregistrement date de 1949. On entendait Pierre Dumayet, c'était à l'occasion du tricentenaire de la disparition de Descartes. Il a été jeune, Descartes, non?
Oui, et puis c'est amusant de remarquer qu'il est né à la haie et qu'il a passé l'essentiel de sa vie aux Provinces-Unies.
Oui, mais attendez, avant de raconter son existence d'errance, parce qu'au fond, il n'a été que par intermittence à Paris.
Le français a vécu, le philosophe français a très peu vécu en France, finalement.
Évoquons tout de même ses études. Alors, il a été élève chez les jésuites, c'était ce qu'il y avait de mieux. Les jésuites avaient
fait d'excellentes études.
Les mathématiques dans l'enseignement
Exactement.
Secondaire.
Exactement, il a eu ce qu'il y avait de mieux dans le temps. Il a donc été au collège de la Flèche, collège fondé, subventionné par Henri IV. Et c'est là que les mathématiques ont été, véritablement, les mathématiques nouvelles ont été introduites dans l'enseignement. Et ça a certainement marqué Descartes sa vie durant.
Ensuite, si on suit le cours de votre livre, Descartes, la fable de la raison, il a été publié chez Flammarion. Je vois ce très beau titre de chapitre, il a étudié dans le livre du monde, très vite.
Alors c'est lui-même qui le dit, il a préféré à la carrière de petit magistrat à laquelle le vouait la fortune familiale, il a préféré partir et... sous couvert de carrière militaire, il n'a pas beaucoup porté les armes, il s'est promené dans les Provinces-Unies, dans l'Allemagne, et là, il a fait quelques rencontres qui lui ont permis justement de manifester l'excellence de sa formation mathématique.
Alors, il faut bien que jeunesse se passe. Il en est qui, aujourd'hui, parmi les jeunes, s'amusent à slammer les textes de Descartes. Écoutez bien les mots qui vont être... utilisé. Il caractérise assez bien les milieux que frôle Descartes dans ses premières errances.
Enfin, pour les mauvaises doctrines, je pensais déjà connaître assez ce qu'elles valaient pour n'être plus sujet à être trompé ni par les promesses d'un alchimiste, ni par les prédictions d'un astrologue, ni par les impostures d'un magicien, ni par les artifices ou l'inventerie d'aucun de ceux qui font profession de savoir plus qu'ils le savent. C'est pourquoi, sitôt que l'âge me permit de sortir de la suggestion de mes précepteurs, j'ai quitté entièrement l'étude des lettres, me résolvant de ne plus chercher d'autre science que celle qui se pourrait trouver en moi-même ou bien dans le grand livre du monde. J'ai employé le reste de ma jeunesse à voyager, à avoir des cours et des armée, à fréquenter des gens de diverses humeurs et conditions, à m'éprouver moi-même dans les rencontres que la fortune me proposait, et partout à faire telle réflexion sur les choses qui se présentaient que j'en puisse tirer quelques profits.
Au piano, Christophe Paturet, au micro, Alain Simon. D'étranges vapeurs, là, enveloppe soudain le jeune Descartes. On a entendu mauvaise doctrine, alchimie, artifices aventuriers.
Oui. Il se promène donc dans cette Allemagne au début de la guerre de 30 ans, une Allemagne troublée, où règnent d'étonnantes idées et où on parle d'étranges personnes qui se définissent par leur invisibilité. C'est les Rose-Croix qui auraient pour mission de venir un petit peu réformer tout ce qui ne va pas. Mais... comme elle se caractérise par le fait qu'on ne peut pas les voir, ça pose quelques problèmes à Descartes, dont on sait malgré tout qu'il est parti à leur recherche et que quand il rentrera en France, il aura là aussi quelques réputations sulfureuses. Mais à tout le moins, il a fréquenté aussi un certain nombre de mathématiciens ésotériques, mais qui ont aussi, faut pas oublier que... malgré tout, Kepler aussi avait vécu dans ce climat d'ésotérisme. Et ça va être sa première formation jusqu'au fond à ce qu'il mette en place son doute qui va lui permettre de surmonter et de chasser ses vapeurs.
Ici, à la Fondation Cartier, le lien est fait constamment dans une exposition entre l'abstraction et l'émotion. Il faut toujours rapporter la création scientifique à l'imaginaire. Alors vous décrivez même... un acte fondateur, un acte onirique, un rêve, c'est l'anniversaire, là nous sommes en novembre.
C'est l'anniversaire, c'était la nuit du 10 au 11 novembre, que Descartes a fait plusieurs rêves, et chose extraordinaire pour l'époque, il a lui-même entrepris de les interpréter. Alors c'est des rêves assez compliqués, il est en proie à des tempêtes, il voit des pluies de feu, toute une série de rêves, mais au matin, il est persuadé qu'il a un grand dessein à accomplir dans les sciences.
Des nuits de l'incertitude sont organisées tout au long de l'exposition sur les mathématiques à la Fondation Cartier. Ici, au bout d'une nuit qui commence dans la culpabilité, la certitude...
Ah, il a la certitude. Alors, on ne sait pas très bien ce qu'il a découvert, mais il doit développer ça. C'est sa vocation. Et ce manuscrit sur lequel il a consigné... le récit de ses rêves, eh bien, il va le garder par-devers lui jusqu'à sa mort.
Il n'a pas beaucoup de bagages, Descartes, parce qu'il s'installe aux Provinces-Unies où il va de maison en maison. Alors...
Ah, il n'a pas de bibliothèque, il n'y a pas de laboratoire, c'est pas un homme, c'est pas un expérimentateur. C'est quelqu'un qui, d'ailleurs, c'était bien dit dans le texte là, qu'on vient d'entendre.
Slamé.
Il ne se fie au fond qu'à lui-même.
1628, l'installation aux Provinces-Unies. Le souverain qui vient de disparaître, Maurice de Nassau, était mort en disant « Je vois bien qu'il n'y a rien de certain que les mathématiques ». Et puis, il s'était couché de l'autre côté, il avait expiré. Ça définit bien un certain climat dans le pays.
Un petit côté libertin aussi, qui est quand même assez, là aussi, tangent, et dont Descartes va aussi prendre quelques idées.
Mais il y est installé, lui, en catholique déclaré, et il fréquente en même temps un monde qui est surtout protestant.
Descartes sera toujours un catholique ultra-orthodoxe, du moins se voulant comme tel, et il va toujours entretenir d'étranges relations. En France, on sait qu'il a eu des relations avec ces libertins que l'Église aborde, mais il est aussi un intime d'un minime, le père Mersenne, qui dénonce les libertins, et puis il va s'installer en pays protestant.
Et Alors, vous décrivez une sociabilité dans ces villes des Provinces-Unies qui s'étend bien au-delà à ce qu'on appelle la République des lettres.
Tout à fait. Alors Descartes nous a légué l'image d'abord du philosophe solitaire. Il n'était pas si solitaire que ça, parce qu'on va voir qu'il recevait, que de plus en plus, il y a eu une sociabilité autour de lui. Mais surtout, il restait en contact avec le monde des scientifiques par, en quelque sorte, la boîte aux lettres du père Mersenne. Le père Mersenne était à Paris, au couvent des Minimes, à côté de la place Royale. Et de là, il entretenait une correspondance avec l'Europe savante.
C'est-à-dire, c'est Google, le père Mersenne, du net en plus lent, en plus fiable aussi.
En beaucoup plus lent. Mais alors Descartes, qui avait la manie du secret, ne communiquait pas son adresse. Seul le père Mersenne l'avait. Et c'était par lui qu'il fallait passer pour rentrer en contact avec le solitaire de Hollande.
C'est aux Provinces-Unies, en Hollande, qu'il apprend, nous sommes maintenant en 1633, la condamnation de Galilée, alors qu'il songe à publier son propre système du monde. Et il écrit au dit père Mersenne.
Je m'étais proposé de vous envoyer mon monde pour ses étrennes. Mais je vous dirais que, m'étant fait enquérir ses jours à Leyde et à Amsterdam, si le système du monde de Galilée n'y était point, on m'a mandé que tous les exemplaires en avaient été brûlés à Rome, et lui, condamné à quelque amende. Ce qui m'a si fort étonné que je me suis quasi résolu de brûler tous mes papiers, ou du moins de ne les laisser voir à personne. Car je ne me suis pu imaginer que lui, qui est italien, et même bien voulu du pape, ait pu être criminalisé pour autre chose, sinon qu'il aura voulu établir le mouvement de la terre. Et je confesse que, s'il est faux, tous les fondements de ma philosophie le sont aussi.
L'abjuration à grand spectacle de Galilée ne va pas empêcher ses théories de cheminer, mais dissimuler. Elle va dissuader Descartes de trop s'exposer. Oui.
Alors, on voit que Descartes, le courage n'était pas forcément son fort. À tout le moins, il pratiquait la vertu de prudence. Alors, son traité du monde, qu'il avait terminé, comme on l'a entendu, contenait tout son système physique et métaphysique réuni. Alors, il va donc avoir une pétoche intense. Il va tout retirer. Et puis, il va publier son système par petits bouts. On peut dire que si Descartes, si le père Mersenne avait connu Google, il aurait été très heureux. Mais si Descartes avait connu le coupé-coller, il en aurait fait un intense usage. Parce que son traité du monde, qui est certainement son œuvre la plus intéressante, il va la tronçonner et la découper dans toutes ses œuvres ultérieures.
1637, l'année du Cid, dites-vous, Françoise Hildesheimer, c'est la publication du Discours de la méthode.
Comme un homme qui marche seul et dans les ténèbres, je me résolus d'aller si lentement et d'user de tant de circonspection en toute chose que si je n'avançais que fort peu, je me garderais au moins de tomber. Je me résolus ensuite de ne rien accepter pour vrai qui n'apparaisse-t-elle à ma connaissance avec évidence. Aussi dès que l'âge me permit d'échapper à l'autorité de mes maîtres, je quittai entièrement l'étude des lettres et me résolus à ne pas chercher d'autres sciences que celles qui se trouvaient en moi-même ou dans le grand livre du monde. Au cours de ces voyages, il me semblait que je pourrais rencontrer plus de vérité dans les raisonnements que chacun fait touchant ses affaires que dans ce que fait un homme de lettres dans son cabinet. J'appris aussi à ne rien croire trop fermement, et je ne fis pendant 9 années que rouler çà et là dans le monde, tâchant de déraciner de mon esprit toutes les erreurs qui avaient pu s'y glisser. Je commençais alors de découvrir les fondements d'une science admirable et appris à conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître. pour monter par degrés à la connaissance des plus composés.
Alors, commencez par les objets les plus simples. Madame Raison, qu'on entendait au début de l'émission, disait que Descartes était photographié. Il aurait pu être un bon photographe parce que des enfants qui jouent avec une toupie, je prends des exemples qui ne sont pas nécessairement dans le discours de la méthode, des poissons salés qui sont exposés au marché, ou alors, plus loin, des étoiles filantes, il faut toujours leur appliquer le même raisonnement, ce que nous concevons comme des apparitions sensibles, il faut en faire des objets purement connaissables.
D'ailleurs, on voit bien dans ce texte que Descartes nous propose une révolution de l'intériorité. Tout passe par une décomposition rationnelle qui se fait dans son entendement. Et à Madame Raison, on pourrait mettre en écho Madame Bonsens, parce qu'au fond, décomposer, aller du plus simple au plus compliqué, ce n'est pas autre chose que conduire sa pensée avec bon sens.
Alors, vous dites que le Traité du Monde, il est décomposé en plusieurs livres. Le discours de la méthode de 1637 est présenté comme une sorte de préface
De programme dans lequel, justement, il expose sa méthode. Et sa méthode, il va en donner des applications, mais uniquement des applications. Donc, quelques essais dont le plus réussi, sans doute, et le plus porteur d'avenir était sa géométrie.
Alors, avant de parler de la géométrie, commençons par la dioptrique, vous voulez bien, parce que l'optique, c'est ce qui l'a retenu à ses débuts.
Alors, ce qui l'a toujours passionné, je crois qu'on pourrait dire que Descartes, c'est le philosophe de la lumière, parce que son Traité du Monde avait en sous-titre, c'était « Traité de la lumière ». Et c'est ça qui va se retrouver dans tous ces traités. Alors,
La dioptrique.
Sur le plan, j'allais dire manuel, on le voit qui s'exerce à tailler des lentilles. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, on est dans la lignée de la lunette de Galilée.
Mais ce qui l'intéresse le plus, c'est la manière dont la lumière est réfractée.
Et c'est lui qui a dégagé la loi de la réfraction. L'optique, c'est vraiment son domaine, je dirais, d'application scientifique.
Alors, deuxième traité, les météores. Les météores, qu'est-ce que c'est ?
C'est la météorologie, quasiment. Il s'intéresse aux phénomènes météorologiques.
Vous parlez des étoiles filantes, mais on pourrait parler de l'arc-en-ciel.
L'arc-en-ciel et la décomposition de la lumière. Et on le voit d'ailleurs quelque temps après qu'il s'excite beaucoup avec Mersenne sur les parélies, qui sont des phénomènes de réfraction autour du Soleil, dont Mersenne a appris qu'il y en avait eu à Rome. Et il y voit là des applications de ces théories.
Et on en vient, on est ici à la Fondation Cartier dans une exposition sur les mathématiques à la géométrie.
Alors la géométrie, c'est quelque chose où on le sent très heureux. Et c'est quelque chose avec lequel il va peut-être arriver, parce que ce n'est pas un homme de dialogue, Descartes, mais il va arriver à trouver quelques dialogues avec quelques mathématiciens autour de sa géométrie. Mais on le voit dans sa correspondance, c'est assez amusant. Il est prudent, il est soupçonneux. Sa méthode, il ne la dévoile jamais entièrement. Et dans ses démonstrations géométriques, c'est un peu vicieux. Il omet de temps à autre un chaînon en disant « si mon lecteur est digne de moi, il le comprendra, sinon qu'il aille se faire voir ».
La géométrie donne de la joie. On va retenir cette maxime, Françoise Hildesheimer. Il est un des premiers inventeurs, pas le premier, il y a eu Viète, par exemple, avant lui, de l'écriture mathématique. Oui. C'est-à-dire que cette géométrie, devient une algébrisation systématique.
Voilà. Il met en parallèle, au fond, l'algèbre et la géométrie. Ouais. Et dans sa notation, c'est à lui que nous devons nos X, nos Y. Nous devons aussi nos systèmes de coordonnées cartésiennes. C'est lui qui a mis en place, au fond, à partir d'un système qui était beaucoup plus compliqué, de signes qu'on appelait des signes cossiques, il nous met en place notre système. On ne pense pas à Descartes quand on enseigne l'algèbre, mais il est là aussi.
Il voulait démonter la construction des courbes et il leur a donné une expression algébrique.
Ouais. Courbe, équation, il a mis ça en parallèle.
Alors à propos d'écriture, en voici une autre, si vous le voulez bien, celle d'Ebola. Vous ne connaissez pas Ebola ? Ah, vous en connaissez beaucoup d'ailleurs des grands personnages du grand siècle qui a été slamé, on a entendu du Descartes slamé il y a un instant, et maintenant rappé.
Je pense donc je suis dur de naître au cours d'une histoire sans fin, on court car néant nous suit. né ambitieux, parce que du dessous, du bout des doigts, j'ai voulu toucher les cieux, resserrer les cieux, et devant mes cieux, les commandants, ne jamais baisser les yeux. C'est ainsi tout ce que je vois m'inspire. Le pire est encore à venir. Je ne suis qu'un produit de ce monde, on m'a appris, je pense donc je suis. Reste-toi, reste-moi, c'est pas ce que je vois ou ce que les autres font que je reproduis. Dans ce monde, chacun un être à part entière. Y'a un gâteau, tous les pépons et veulent la part entière. Le plus souvent ça part en guerre. Je pense donc je suis. Mais ce qui me touche.
Ça part en guerre, oui, plus il apparaît Descartes comme chef d'orchestre d'une école protéiforme, plus les contestations vont se lever, à commencer par celle des théologiens protestants dans ces chères provinces unies dites tolérantes.
Oui, alors il va partir en guerre contre beaucoup de monde, parce que je sais pas, je suis pas sûre qu'il aurait beaucoup aimé être slamé, râpé. Ce dont il rêvait, c'était de voir son système adopté par ses maîtres jésuites et devenir le canon de l'enseignement. Or, bon, ça, les jésuites vont être aussi prudents que Descartes l'était et ne vont jamais vraiment se prononcer. Mais les ennuis, il ne va pas en avoir avec Rome. Il part de temps à autre en guerre, imaginairement, contre ces jésuites qui ne lui répondent pas. En revanche, les jésuites restent tranquilles, mais les théologiens protestants des provinces unies, eux, partent en guerre contre cet hôte qui leur paraît de plus en plus indésirable.
Réponse, les six méditations et les Principia Philosophiae, ça c'est en latin. Leur publication ne va pas désarmer les objections aux provinces unies, si bien que, se sentant cerné par les accusations d'athéisme dans son pays d'adoption, il se retourne vers Paris. 1644, il n'y était pas venu depuis 16 ans.
Descartes est à Paris.
Descartes. Descartes.
Vite, vite. Il aura commencé.
Par là, il n'y a guère de place. Allez plutôt vous mettre de ce côté. Merci.
Je supposerai donc qu'il y a non point un vrai Dieu, qui est la souveraine source de vérité, mais un certain mauvais génie. Je penserai que le ciel, l'air, la terre, les couleurs, toutes les choses extérieures que nous voyons, ne sont que des illusions. Et je me considérerai moi-même comme croyant faussement voir toutes ces choses. Eh bien, voici, messieurs, je vous lirai demain la suite de ces méditations.
Slamé, rappé, filmé ici par Ariane Nouchkine. On entendait tout à l'heure un extrait d'un film de Rossellini. C'est pas mal. Alors, Dieu, et Dieu dans tout ça. Vous posez carrément la question dans votre livre, François.
Dieu dans tout ça. On peut dire que Dieu ne tient pas forcément la première place. C'est lui qui donne la chique note de départ. Et puis après, le monde de Descartes se déroule selon des règles scientifiques. Alors,
on peut tout aussi bien dire autrement. Dieu peut se concevoir selon des idées claires et distinctes. Existence peut être prouvée. Et il y a tout un courant de la pensée, notamment catholique, et encore très puissant en France aujourd'hui, qui, voulant donner sa place à la raison, s'appuie sur Descartes.
Alors Descartes ne doute pas d'avoir démontré Dieu. Il reprend la vieille preuve ontologique. Enfin, mais malgré tout, dans ses œuvres scientifiques, à commencer par le monde, le vieux monde, il nous développe quand même une forme littéraire assez étonnante. Pour éviter tout ennui, il nous dit, bon, il y a la version de la Bible, etc. Mais moi, je vais vous raconter une fable. La fable de mon monde. Imaginez qu'un mauvais génie, c'est une fable. Alors, de toute façon, ça ne me fera pas d'ennui. Et c'est comme ça qu'il fait passer ses théories. Et somme toute, on s'aperçoit malgré tout que Dieu en est un petit peu absent, puisqu'à un moment, je schématise beaucoup, mais il nous dit « Donnez-moi la matière et le mouvement et je vous fais de la vie. »
Oui. Vous êtes sur la position qui consiste à dire que Dieu, que Descartes ne retient de Dieu que ce qui permet de se passer de lui. Vous êtes un petit peu sur la position de Pascal le Jeune, si je puis me permettre la comparaison, Françoise Hildesheimer. Ici, nous sommes dans une pièce de théâtre. Jean-Claude Briseville a restitué à sa façon le dialogue qu'aurait eu lors d'un des derniers séjours de Descartes à Paris, Pascal avec le philosophe.
Un homme de votre valeur, de votre qualité, ne devrait pas mettre tout son génie au service de son effroi.
Je n'entends plus le langage des nombres. Et il me faut une réponse.
Arriver à la paix par les nombres, un chrétien peut-il soutenir cette façon de raisonner? Ne voyez-vous donc pas qu'elle en arrive à vous faire passer de Dieu?
Je n'ai jamais douté qu'il avait mis le monde en mouvement.
Oui, une chiclode. Et après, vous n'avez plus que faire de lui.
Vous me brûleriez si vous en aviez le pouvoir.
Savez-vous que j'ai travaillé 3 ans à un ouvrage où je soutenais l'opinion de Copernic touchant au mouvement de la Terre autour du Soleil? Or, quand j'ai appris la condamnation de Galilée pour avoir soutenu la même thèse, j'ai renoncé à publier mon livre.
Et cependant, je suis sûr que la Terre tourne autour du Soleil. Mais cette vérité pouvant être pour moi source d'ennui, j'ai préféré ne pas la dire.
Je ne vous savais pas si soucieux de votre accord avec l'Église.
Elle est puissante et soupçonneuse. Et je ne suis pas courageux tous les jours.
Cette franchise vous honore.
Il ne me suffit pas de croire. Je veux savoir. Serait-ce un péché à vos yeux?
Oui, vous êtes sur la même position que Pascal, je répète, parce que vous l'accusez de prudence, de dissimulation, vous dites qu'il donne seulement la chiquenaude, Dieu, mais on pourrait tout aussi bien soutenir que physique et métaphysique étant liées, la métaphysique venant avant la physique, Dieu continue de soutenir le monde tout au long de l'œuvre humaine.
Il est bien évident qu'il faut rester dans l'esprit du XVIIe siècle. La physique ne peut pas, la physique qui est une philosophie de la nature en fait, ne peut pas pour Descartes être indépendante d'une métaphysique. Et quand on le lit aujourd'hui, j'allais dire d'une manière purement scientiste, puisqu'aujourd'hui il est de bon ton de l'accuser de tous les crimes, de parler des erreurs de Descartes, on est complètement anachronique, on reste quand même dans un cadre qui est celui de son temps.
Oui, surtout quand on dit que Descartes est matérialiste. Vous dites que ce n'est pas un homme de dialogue. On peut raconter une dernière histoire pour finir. Il va chez la reine de Suède. Le capitaine qui l'amène dit « c'est un demi-dieu ». En 3 semaines de voyage, il m'en a davantage appris sur la science de la navigation que 60 ans d'expérience. Il parlait avec le capitaine, oui. Il parlait avec son domestique oui. En Hollande.
Oui, on le voit soucieux d'instruire un certain nombre de gens. Le problème qu'il a, c'est le dialogue, c'est avec ses égaux. On le voit qui refuse de dialoguer, par exemple, avec Pierre de Fermat, avec Robert Val, qui élude le dialogue avec Pascal. Mais quand il est en situation de pédagogue, là, on sent qu'il met du cœur à former les gens.
Par exemple, le domestique en Hollande, revenons un instant aux provinces unies, sa province d'élection, son pays d'élection, Jean Gillot, il dit « il n'est pas encombré par les autorités, cet homme est d'eau ». Beaucoup plus libre que mes égaux.
Il est à ma main, je peux le former. Il en a fait d'ailleurs un excellent mathématicien.
Vous savez, l'histoire, ça encombre souvent les esprits. On devrait tous se mettre dans la position de Jean Gillot, Françoise Hildesheimer. Descartes, la fable de la raison, c'est chez Flammarion, dans l'équipe technique. Sébastien Huel, Jean-Pierre Pernel, Frédéric Kérou. La préparation Meryl Moneghetti, Frédéric Martin, Franck Olivard et notre présence à la Fondation Cartier m'a permis de converser avec notre réalisateur qui m'a appris qu'il avait été comme Descartes, élève des jésuites, c'est Jacques Sigal.